première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Anne-Claire Schmitz.
La commissaire que vous êtes, quel rôle a-t-elle ?
C'est un rôle d'accompagnement, je pense, toujours, comme dans n'importe quel projet. Peut-être de stimulation aussi, parfois de provocation, d'encadrement, mais aussi de gestion, de communication et de conversation, je pense.
Oui, on est en train de préparer notre dernière bataille.
Qui se passera au mois de mai.
Dans la Biennale de Venise.
Dans la Biennale de Venise, dans le pavillon de la Belgique que vous occupez.
Moi, je suis Jos, c'est Harald.
Jos.
De Gruyter.
Et Harald.
Thijs, Harald Thijs.
Je suis commissaire d'exposition et depuis 2012, je m'occupe d'un lieu qui s'appelle La Loge, à Bruxelles, et qui est un espace qui est dédié à l'art, l'architecture et la théorie, et qui produit des expositions, des conférences, des performances et des projets divers, dans lesquels autant des notions de discussion, présentation et production rentrent en jeu. Et cette année, j'ai répondu à l'appel d'offres qui avait été lancé par la communauté française pour le pavillon belge. Et j'avais proposé à Harald et Jos qu'on rentre un projet ensemble. Et du coup, c'est un projet que je fais en plus de mon travail à la Loge. Mais bien entendu, la Loge, maintenant, est complètement partenaire aussi de ce projet-là.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach. Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tente me tente tente stélé.
Le monde invisible.
Biennale de Venise 2019, qui se tiendra du 11 mai au 24 novembre. Pavillon de la Belgique. Projet Mondocane. Par Jos de Gruyter et Harald Thijs.
Dans le cadre d'un projet qui représente un pays à la Biennale de Venise, il y a aussi un dialogue avec toute une série d'autres personnes et d'acteurs avec lesquels on a aussi des conversations à propos du travail ou à propos de sa représentation.
Avec Alda Creoli, Anne-Claire Schmitz, Margot Schwartz, Jos de Gruyter, Harald Thijs. Ainsi que la voix de Tadeusz Kantor, enregistrée à Cracovie durant l'année 1988.
Deux artistes qui travaillent ensemble, ce qui est déjà assez particulier, donc qui forment un duo depuis qu'ils se sont rencontrés en école d'art à Sint-Lucas à Bruxelles. Qui ont reconnu l'un dans l'autre les signes, je dirais, d'une même observation du monde et se sont mis à pratiquer cette observation ensemble, à appliquer aussi une sorte de ping-pong ou d'échange qui les intéresse. Et donc, ils travaillent ensemble depuis les années 80 et ils produisent un langage que je trouve extrêmement singulier. Il se démarque aussi par sa posture et sa tonalité de manière très forte de la culture visuelle, mais aussi de communication qui nous entoure, qui fait preuve de beaucoup d'indépendance aussi, je pense. C'est un langage très singulier qui m'intéresse beaucoup.
Mondocane, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Cette lenteur, qu'est-ce qu'elle est ? Je pense que c'est une précaution. C'est aussi lié à l'observation, c'est-à-dire que c'est pas une conversation ou un dialogue qui critique ou qui juge, mais c'est plutôt quelque chose qui regarde. Et je pense que pour regarder, il faut peut-être, oui, ne pas être trop rapide.
Ce sont des beaux moments. Et puis je les ai rencontrés parce que j'ai voulu, à partir du moment où ils ont été sélectionnés, les rencontrer. Donc on a eu de longs échanges ici sur leur travail. J'avais déjà vu leur travail, donc voilà. Donc c'était de très très beaux moments.
Registre les premiers sons de la Biennale de Venise.
Voilà, ça c'est le son d'origine.
C'est le son d'origine.
Elle ajoute, donc c'est un imprimant 3D. Il y a en tête, ça prend 24 heures à peu près. Ça c'est ma tête, ben, on voit rien encore. Il y a une tête à Harald aussi.
Il y a les poupées de Jos et Harald, effectivement, qui seront tous les deux en peignoir.
Alda Criotti.
Ils sont très complémentaires, et donc quand on les rencontre ensemble, il y en a un qui préfère parler et un autre qui préfère se taire, mais on sent que dans l'expression, dans ce qu'ils amènent dans la construction de leur œuvre, il y a une belle complémentarité.
Je vois des imprimantes qui construisent des têtes, je vois des costumes, je vois comme des articulations. Est-ce qu'on aura affaire à une sorte de théâtre d'objets ?
Il y aura pas mal d'automates qui vont faire des mouvements en répétition. C'est pas des personnages très intelligents, donc ils vont faire toujours la même chose. Il y a des gens qui vont faire des choses utiles, des artisans qui vont montrer des vieux métiers. Et puis, il y aura des prisons aussi. Et derrière les barreaux des prisons, il y aura des gens qui font des choses pas très utiles. Mais en fait, les deux sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans une sorte de psychose où ils... font des choses en répétition sans que ça a aucun but. Ils sont comme ça, il ne peut rien y changer, ils sont comme ça.
D'où sortent-ils ?
De nos têtes. Il y en a qu'on connaît déjà il y a longtemps. C'est des fictions un peu. C'est parfois un peu basé sur le caractère des gens qu'on connaissait, qui jouait aussi dans des films à nous, et aussi des personnages inventés qu'on a construits, surtout en allant de Charleroi aéroport vers Bruxelles. Là, on a eu beaucoup d'inspiration sur des personnages un peu marginaux, un peu extrêmes.
La Gréoli, vous dites philosophie.
Oui, je parle de philosophie, je parle de l'esprit qui est dans leur œuvre. Alors c'est vrai qu'ici, à Venise, on va avoir une forme de... Comment est-ce que je vais appeler ça ? Un musée folklorique du monde ou du folklore, en particulier du folklore belge, évidemment. Et donc, quand je parle de philosophie, c'est parce que derrière ça, il y a un message profond. Il y a un message profond sur l'ouverture à l'autre, sur ses propres peurs, sur la peur de l'autre. Oui, pour moi, ça relève de la philosophie, oui.
Alors, pour moi, toutes les valeurs artistiques, philosophiques, de la vie, sont... dans la condition dégradée, c'est-à-dire la plus basse. Pour moi, la création, ce n'est pas le procédé très, vous savez, très élevé, vénérable. Non, c'est presque la cuisine. C'est presque la cuisine. Alors, comme on fait dans la cuisine, mélange, vous savez, et on mélange beaucoup de produits et enfin on donne les plats magnifiques. Oui, c'est la réalité dans les plus bas. Oui, c'est pour ça que je mélange. J'ai toujours mélange. J'ai aucune ligne droite qui mène, je ne sais pas, à la fin.
Et à les interroger, j'évoquais des figures théâtrales avec des personnages qui sont perdus, qui ont des histoires de folie, mais qui sont perdues, et qui ressemblent à des personnages issus du théâtre de l'absurde.
De l'absurde ou de la Belgique. Et quand je dis ça, non pas parce que j'estime que la Belgique soit absurde, loin s'en faut, mais parce qu'il y a quelque chose d'au-delà des dimensions naturelles. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de théâtral, puisqu'en plus, ce sont des installations de personnages. Donc il y a quelque chose de théâtral, il y a de la mise en scène. Mais en même temps, quand je vois leur installation, je trouve que tout de suite, on ressent plutôt une forme de solitude profonde de la peur. Et donc, vous parliez, vous, de folie, mais qu'y a-t-il de plus fou que la solitude profonde ou de la peur de la solitude profonde ?
Quand je vous écoute, je pense à un petit voyage que j'ai fait, mais à l'époque, en Pologne, à Cracovie, pour rencontrer le metteur en scène Tadeusz Kantor. Vous connaissez ?
Cet axe, c'est la notion de la mort. Mais en même temps, c'est la notion de la vie. Et c'est, en même temps, c'est la notion de la mémoire et c'est la notion du passé. Parce que pour moi, s'il s'agit de la réalité, c'est plutôt le passé qui est valable. Parce que le temps présent, c'est très fluide, ça n'existe pas, parce qu'il change toujours. Le futur, l'avenir, pour moi, n'existe pas. L'avenir n'existe pas, s'il s'agit de la création.
Oui, on connaît un peu, on était invité à Cracovie pour une conférence sur lui, et comme la personne qui avait organisé sentait qu'il y avait des choses similaires, il nous a invités pour parler aussi un peu de notre travail. C'était Kantor.
Ah, Kantor, ah, oui.
Pour moi, c'est le passé qui compte.
Mais j'ai pu le rencontrer, moi.
Ah oui?
Oui, oui. Et l'interviewer.
Ah oui?
Sur son
dans
théâtre. Dans les années 80.
À Cracovie.
Oui, oui, dans son théâtre Krikow 2. Oui. Oui.
Pour moi, c'est le passé qui compte. C'est le passé qui est la réalité parce qu'elle est connue. Le passé est connu. Et le passé est enregistré dans notre mémoire. Ce n'est pas le sentimentalisme, non. Ce n'est pas le symptôme de la vieillesse, non, non, non. C'est le passé, pour moi, c'est la réalité. Alors, cette ligne, cet axe, ça peut être la notion de la mort, la notion du passé, la notion de la mémoire.
Nous sommes dans ce même monde.
Oui, on travaille souvent avec des petits traumatismes. En étant quelque part, regardant un peu trop longtemps une scène, un personnage, pour ne pas tomber malade, on en fait un personnage qui va nous servir plus tard dans notre travail. C'est une question de survivre, oui, et de projeter pas mal de choses sur ce qu'on a vu.
Une route à la campagne avec un arbre, le soir. Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains. Il s'arrête à bout de force.
Et c'est drôle, quand je vous écoute, je pense tout d'un coup à Samuel Beckett. Vous connaissez ?
Un peu, hein ? Un peu. On a dit ça plusieurs fois, qu'il y a un peu de ça aussi.
Rien à faire.
Commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant « Vladimir, sois raisonnable, tu n'as pas encore tout ici. »
Mais on est...
Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit ?
Dans un fossé.
Fossé ? Où ça ?
Par là.
Et on ne t'a pas battu ?
Si. Pas trop.
Toujours les mêmes ?
Les mêmes ? Je ne sais pas.
J'ai vu une installation de vous à l'époque, c'était dans le Wills, il y avait une exposition, dans le sous-sol de l'annexe.
Oui, voilà, oui, oui.
Et c'était aussi une sorte de bureau fantasmé.
Oui, oui, ça c'est un vieux travail.
Ça date 88 ou...
92, oui.
92.
Oui.
Le souvenir de quelque chose qui néanmoins est palpable. On se souvient d'une atmosphère, d'une tonalité et d'une situation. Je me souviens d'un homme de guerre, de son lieu de travail, assez obscur, assez amateur aussi, qui rend compte d'obsessions personnelles. Un chocolat, un chacha sur la table, d'une habitude et d'une obsession d'ordre personnel, mais aussi d'obsessions plus sociétales, qui appartiennent plus au groupe.
Pas de la folie au sens de la maladie mentale, plus de la folie au sens de la panique, de la peur, de la panique de la solitude.
Une crabe qui entre dans une bouche. Le personnage s'appelle Brigitte Panacouk.
Pour l'instant, en tout cas, moi, je travaille à côté de Brigitte et de sa mère. Sa mère est en fauteuil roulant, en training, avec vraiment des habits d'intérieur vraiment assez glauques, avec un coussin pour le cou et des petites lunettes sur son fauteuil roulant.
Elle vient du nord de la France. Elle a une obsession psychiatrique avec des scampis. Donc elle adore les scampis et ça devient un peu une chose sexuelle.
Et en face d'elle, sa fille, Brigitte, qui a un corps absolument énorme, qui est comme une espèce de bébé peluche qui aura des scampis dans la bouche.
Une femme qu'on a inventée notamment en venant de l'aéroport de Charleroi.
Assez écœurante, très très pleine, comme si elle a l'air très mal en point. On est très déstabilisé par la présence de Brigitte, qui pour l'instant en plus est jonchée sur le sol.
Le paysage est plus fort que le sérieux. Les intentions ne sont pas au même niveau que la réalité. Il y a un hôtel là-bas, et ça pourrait être un hôtel à Spitsbergen. Il y a beaucoup de pluie, et puis il y a des bâtiments assez vieux, une petite église aussi, je pense, et c'est quand même un paysage très imbibé de tristesse, mais aussi très inspirant pour nous.
Une forme d'érotisme inconfortable.
Quand ça se passe dans la boue et la pluie, des villages ou des petites villes un peu tristes.
C'est pas le Borinage, hein? Pas encore. C'est près de là. Oui, c'est un peu cette atmosphère. Hein.
Qui sont figés dans ce qu'ils ont été plutôt que d'être ouverts à ce qu'ils peuvent être. C'est remarquablement réalisé, oui.
Le visiteur, quand il rentrera dans le pavillon de la Belgique, rentrera dans une sorte de théâtre où il sera lui-même acteur.
Je ne pense pas qu'il sera acteur, il sera vraiment visiteur.
Il n'hésite pas à se mettre en scène quand c'est nécessaire, oui.
C'est une exposition, le public est visiteur, donc c'est très classique.
On peut se déguiser pour s'enfermer dans soi-même.
Les personnages qu'il crée ont tous vécu quelque chose de grave, de l'ordre privé ou collectif, historique ou personnel, et qui les marque et qui est visible. Ils les inscrivent dans une position statique. Donc c'est un travail qui est en état de choc.
Anne-Claire Schmitt.
Et qui ne choque pas. C'est lui qui est en état de choc.
Cet axe, c'est la notion de la mort, mais en même temps, c'est la notion de la vie. c'est en même temps, c'est la notion de la mémoire et c'est la notion du passé. Parce que pour moi, s'il s'agit de la réalité, c'est plutôt le passé qui est valable, parce que le temps présent, c'est très fluide, ça n'existe pas, parce qu'il change toujours. Le futur, l'avenir, pour moi, n'existe pas. L'avenir n'existe pas, s'il s'agit de la création.
Je pense à des figures qui viennent tout droit de la guerre, 40. Par exemple, une femme qui a été collaboratrice.
Oui.
Vous voyez qui c'est ?
Oui.
Madame Legrand, qui est en construction, qui est une femme qui était collaboratrice pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais tellement que les Allemands ont dû la calmer. Et c'est une femme qui est amenée en corbillard dans une certaine quartier à Bruxelles et qui a beaucoup de pouvoir encore. Et quand elle ne reçoit pas ce qu'elle veut, elle donne des coups de pied qui font vraiment mal.
Des noms de lieux, Brendonck.
Oui.
Pourquoi Brendonck ?
Ben Brendonck, donc c'est un fort en Belgique qui a servi de camp de concentration nazi, le seul en Belgique. Donc c'est un lieu qui est sur la A12, donc cette autoroute qui relie le ring d'Anvers au ring de Bruxelles. Et c'est une route qui a pas mal inspiré les artistes, ou que les artistes ont régulièrement emprunté. Et en fait, les autoroutes et les routes inspirent beaucoup Harald Eyos. Parce que d'une part, ils sont dans leur voiture et je pense qu'ils se parlent beaucoup quand ils sont en voyage, en voiture.
C'est une femme flamande, en fait. Mais comme ça, il a l'air d'un samouraï. Il y a quelques gens au 19e siècle qui ont eu des visions où ils ont vu une femme qui flottait légèrement et qui tournait sa tête 360 degrés. Ces gens-là, ils ont eu des psychoses et tous vu cette personne. Aux alentours, Brendonck, qui est aussi un terrain assez chargé, des champs avec la brume, la boue et des visions, des hallucinations, trop de bière aussi.
L'autoroute, dans sa trajectoire un peu monotone, en fait, pousse aussi à s'arrêter et à peut-être aller visiter des choses sur une aire d'autoroute ou à faire une étape quand on voyage, qui permet de voir toute une série de choses aussi sans que ce soit vraiment prémédité, en fait. Donc c'est un peu comme des surprises, mais souvent des surprises assez banales.
Mais on était souvent dans le camp, déjà moitié années 80, et c'est là qu'on s'est inspiré beaucoup pour faire cette expo que vous avez vue à Wills, avec un sorte de dictateur qu'on avait imaginé, et on est quand même assez obsédé par une certaine mentalité allemande, une austérité et une brutalité. Ça, c'est un terrain inépuisable pour nous, parce que ça continue d'une autre manière.
Et la A12, bon, ils l'ont souvent empruntée. Déjà, ils étudiaient à Skarbek et ils allaient rendre visite le week-end à des membres de leur famille qui leur faisaient emprunter la A12. Et sur la A12, il y a pas mal de résidus culturels. Et c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup et qui sont l'un à côté de l'autre, un peu comme une compilation de choses improbables. Le carré de Willowbrook, mais qui est fait de restes du pavillon Côte d'Or à l'exposition 58. Il y a une église baroque assez belle, une chapelle baroque. Il y a un tank qui est une sorte de symbole de la libération. Il y a la maison Guillette, la seule construction du Corbusier en Belgique. Et il y a Brendonck. Et Brendonck, c'est aussi un lieu qu'ils ont visité pas mal, étudiants ou en étant jeunes artistes. Je pense parce que c'est un lieu, évidemment, de terreur, qui fait très peur et qui est très frais, en fait, dans le rappel de la terreur. C'est quelque chose qui ne disparaît pas. Mais il y a aussi autre chose. Je pense que c'est aussi un lieu dans lequel on muséifie, où on a créé un musée autour d'un moment de l'histoire tragique, dramatique. Et le musée aussi adopte des modes de présentation. Je pense qu'il les intéresse, ou une manière de parler, ou une narration qui les intéresse.
Moi, c'est Harald Thijs. Jos de Gruyter.
Voilà, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans leur travail, surtout depuis quelques années. Ils ont produit des expositions qui, elles-mêmes, s'intéressent un peu à des rhétoriques d'exposition ou de présentation.
Comme l'expressionnisme.
Attendez, là, je dois réfléchir.
Comme l'expressionnisme, puisqu'il me semble que nous sommes dans l'expressionnisme, dans des figures, dans une tradition. Hein. Je pensais à Masaryk, hein, ça vous dit quelque chose, Franz Masaryk.
Oui, bien possible, bien possible.
Et Harald Thijs parle aussi souvent du trajet ou de la route qu'il y a entre Au Havre et Bâle.
Parce qu'on a fait un concert d'orgue il y a une semaine, et là, soudainement, à cause des lumières qu'on avait installées, ça devenait comme un film expressionniste allemand. Il y avait quelque chose qui se passait.
30.
Oui.
Pour moi, c'est le passé qui compte. C'est le passé qui est la réalité parce qu'elle est cognée.
Oui, ça sera assez théâtral. Hein.
L'automation, même si elle est d'ordre technologique, elle amène avec elle aussi une idée un peu régressive de la technologie. C'est pas la technologie dernier cri. On n'est pas du tout dans des avatars. On est vraiment dans de l'automation pure et dure, mécanique. Pour moi, induit cette idée régressive ou de régression. Et ce que je trouve intéressant, je vais essayer de formuler clairement, c'est que il semblerait que l'automation ou les premières expériences d'automation soient nées par un désir que l'homme avait, en fait, d'explorer en fait une forme d'altérité, et que c'était une manière aussi de prendre distance par rapport à son propre corps et de pouvoir l'observer comme quelque chose d'étrange, mais aussi de créer une relation à l'autre.
À leur parler, j'évoque deux figures d'artistes qui viennent du théâtre. D'un côté, il y a l'homme que j'ai pu rencontrer à Cracovie, à l'époque, pendant l'état de guerre, qui s'appelait Tadeusz Kantor.
De la reconstruction du passé. Alors, par exemple, un de ces moyens, c'est la répétition. C'est-à-dire, dans notre mémoire, il y a les clichés. Les clichés qui sont statiques, ils ne sont pas en mouvement, ils ne se développent pas. Ce n'est pas la fable, ce sont les clichés, ce sont les images, oui, qui sont dans notre cette cartothèque, vous savez, de notre mémoire, de notre tête. Mais si je voudrais reconstruire quelque chose de mon passé, je vois les clichés. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils apparaissent, ils disparaissent. Parce que c'est le fonctionnement de cet appareil mémoire. C'est les clichés qui sont toujours dans l'état de naissance et de mourir.
Et l'autre, Samuel Beckett.
Le travail, il est théâtral. Il est de l'ordre du spectacle, même s'il est non spectaculaire, ou qu'il opte pour un langage volontairement non spectaculaire. Il fait usage d'artifices, mais qui sont visibles. Il a pas mal, depuis quelques années, fait usage de poupées aussi, de prendre distance avec la figure humaine, mais en même temps de pouvoir mieux l'observer. Et puis je pense qu'il y a quelque chose, en attendant Godot, je crois que c'est très présent dans leur travail aussi.
Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit ?
Dans un fossé.
Un fossé ?
Où ça ?
Par là. Et on ne t'a pas battu ?
Si, pas trop.
Toujours les mêmes ?
Les mêmes ? Je ne sais pas.
Enfin, il y a quelque chose de grotesque.
Là, en tout cas, dans l'atelier, on voit une fileuse qui est très, très élégante. Et on voit aussi une potière qui, elle, est un peu plus rustre, alors que la fileuse est toute en finesse, avec une chevelure brune très longue et des lèvres très rouges.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui relie ou qui rejoint cette idée de la lenteur, mais qui est lié à l'attente.
Il y a des moteurs dedans. Je pense la moitié environ vont être équipés d'un moteur.
J'ai l'impression que le travail de Harald Eyos, en tout cas ce qu'ils produisent, donc leurs personnages, leurs photographies, leurs sculptures, leurs performances, ont toujours quelque chose de très mutique, statique, inerte, qui est dans une forme d'attente, mais qui se rend aussi d'emblée disponible pour un changement, ou à un changement qui, par contre, n'est pas nommé dans le travail. Mais on sent que il y a un état suivant qui est possible.
Dès que quelqu'un entre, il y a une sorte d'œil électronique, et ça va déclencher une sorte de scénario, parce qu'il y a aussi des gens qui vont commencer à chanter ou hurler, ou faire un mouvement assez idiot.
L'histoire aussi. Mais il n'y a pas de scène.
Moi, c'est Harald Thijs. Jos de Gruyter.
Je vais rencontrer votre collaboratrice qui s'appelle
Margot Schwartz. Il y en a d'autres, hein.
Il y a ce qu'on appelle dans l'atelier le pizza guy, donc le pizzaiolo.
Margot Schwartz.
Qui, pour l'instant, a l'air d'être un des personnages les moins perturbés de cette petite famille. Il a l'air très sain, il a l'air aussi très concentré. Il a tous ses outils sur la table. Il a les aliments pour faire la pizza, la pâte, la toque de cuisinier. Il a l'air très concentré.
On avait déjà collaboré à la loge il y a quelques années. Mais Margot est artiste. Mais depuis un an et demi, je dirais, aussi commencé à aider Harald Eyos et quelque part à les assister dans leur travail. Et au moment où on a décidé de rentrer le dossier pour la Biennale de Venise, eh bien, dès le début, on a demandé à Margot aussi si elle pouvait nous aider. Donc elle est là depuis le début. Donc en fait, sur le projet, elle a deux casquettes. C'est que d'une part, elle assiste les artistes et d'autre part, elle m'aide moi aussi. Mais du coup, en fait, ce qu'elle fait principalement, c'est un peu le lien entre l'atelier, entre le travail et la biennale ou le projet de la biennale. Mais après, il y a toute une équipe et je pense qu'en tout, il doit y avoir une dizaine de personnes, un peu plus, une quinzaine. Il y a aussi un responsable de production qui fait la coordination de toute la production, qui travaille au Wills, en fait. Et puis on a une agence de communication voilà, des personnes qui sont spécialisées dans toutes les fonctions qui sont nécessaires pour mener ce projet.
On est aussi fasciné comment les automates, quand il n'y a personne, ils ne bougent pas. Et la nuit, ils doivent vivre ensemble pendant 6 mois, jour et nuit. C'est quand même quelque chose qui nous fascine aussi. Qu'est-ce qu'ils font la nuit, quand il n'y a personne? Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce qu'ils ont tous un peu le regard rêveur.
Le visiteur est visiteur. Et par contre, il entre dans une exposition qui se présente comme une sorte de spectacle dans lequel il joue un petit rôle parce qu'il va animer le spectacle.
Ils ne sont pas là eux-mêmes pour s'échapper à une réalité trop cruelle, peut-être.
La Biennale de Venise génère un public très dense. Je serais très curieuse, mais il y en aura au moins la nuit. En fait, de pouvoir être témoin de ces moments-là. Mais a priori, lorsqu'il n'y a pas de visiteurs, l'exposition est à l'arrêt et inanimée. Et c'est seulement lorsque quelqu'un rentre dans le pavillon que la boucle du mouvement se met en marche.
Parce qu'ils ne bougent pas ensemble, c'est parfois il y a un son. Oui. Je pense que ça va marcher très bien quand il n'y a pas beaucoup de monde. Si c'est plein à l'ouverture, je pense que ça va être un peu...
D'être ensemble, oui. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans le travail de Harald Eyos, c'est qu'ils effectuent une sélection d'histoires, de personnages, de matériaux. Et à un moment donné, ils font... entité, communauté. Il crée un espace très délimité dans lequel il y a une sorte de proximité, de cohabitation, forcée.
Mais quand c'est silencieux,
oui.
Et tu regardes, et soudainement il y a un type qui commence à... Oui, je suis curieuse aussi.
Asile de nuit, oui. C'est comme à Paris, hôtel de Dieu, oui, où se trouvent beaucoup de putains, de souteneurs, des artistes maudits, les gens qui sont tout à fait dégénérés. Ce sont les bas-fonds de la société, les bas-fonds.
Celui-ci n'a pas de nom, il s'appelle Unknown, parce qu'il n'y a personne qui connaît son nom. Mais c'est un type... grec, ça c'est la seule chose qu'on sait. C'est un psychopathe. Son terrain d'action, c'est les plages ensoleillées à 40 degrés. Là, il commence à s'inspirer pour faire des choses.
Quand il a bu trop de raki, une sorte de gueule de poids qui devient psychotique.
Il y a énormément d'artistes qui ont travaillé et qui travaillent avec des marionnettes pour différentes raisons.
Il ne va pas parler, mais il a une petite poupée sur ses genoux qui va raconter des histoires assez effrayantes.
Tous les acteurs, tous les personnages de toutes les pièces de la dramaturgie mondiale sont tous morts. Sont tous morts parce qu'ils ne vivent pas. Et ils viennent de ce monde au-delà à notre monde. Mais comment il se comporte dans notre monde, très drôlement, c'est-à-dire ils cherchent, doivent trouver ce double.
Une poupée des années 20 encore, canadien.
C'est assez fascinant à voir, oui. Je trouve que c'est stimulant, en fait, que cette forme, finalement, très traditionnelle et archaïque de représentation, parce que, quelque part, c'est une tentative de représentation distanciée, soit encore si effective. surtout dans la communication actuelle. Et je pense que ce sera très effectif, oui, à Venise aussi, en 2019.
Ouais. Et qui revient en Europe pour raconter des histoires effrayantes.
Il cherche le double. Et le double, c'est son personnage de bas-fond.
La fileuse qui file de la laine, elle a le visage d'Irmgard Speck, qui était une sculpture qui existait déjà dans le travail des artistes. Une physionomie, son visage, existe déjà dans une série que les artistes ont déjà faite, qui était des têtes en plâtre. Cette tête avait déjà été modélisée. Et elle revient ici sous les traits d'une fileuse.
Christinus Oplimus.
Et moi qui m'apprends beaucoup, en fait, dans la cohabitation avec le travail.
Le costume définit vraiment l'identité de chaque personnage et une personne qui va commencer à être créée. Et c'est aussi par les attributs qu'on lui trouve qu'elle va accéder à son identité, j'ai l'impression.
Ça enregistre encore ?
Oui.
Ah oui. Ça, c'est une femme qui s'appelle Kate Webster, qui avait tué sa maîtresse. C'était une bonne, on dit ça comme ça. Elle va être sur un rocking chair en train de coudre.
Une posture par rapport à la communication.
Anne Clerchon.
Il pratique une communication qui est très binaire ou qui apparaît de manière très générique, mais qui en fait est très ouvert, je pense, subtil. Je pense qu'elle est très active, la communication qu'ils mettent en place. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'elle est la rigueur qu'ils appliquent à leur travail, à la manière dont les idées sortent et sont distribuées, est telle que, en fait, ils refusent la médiation. Et en fait, je pense que c'est très important aujourd'hui. Quelque part, peut-être de refuser la médiation. Je le vois aussi dans les institutions culturelles, parce que je suis plus dans ce côté-là, dans ma responsabilité dans le champ de l'art. Et je pense qu'on a beaucoup parlé du besoin de médiation, mais que peut-être qu'on se rend compte que c'est une erreur. Et que le plus intéressant, c'est de pas adapter son langage pour parler à l'autre, mais c'est d'arriver à lui parler directement. Et je pense que c'est quelque chose de très fort dans leur travail.
Ça ici, c'est les habits d'un joueur de sitar, on dit ça comme ça. C'est aussi un tueur allemand.
Les personnages sont d'abord construits par le vivant et non pas prédéterminés par leur fiche descriptive, où il faudrait absolument qu'elle rentre dans une case, mais plutôt quelque chose d'assez vivant, où finalement, ce détail-là va arriver et va peut-être modifier un peu la personnalité ou l'histoire de chaque sculpture, de chaque personnalité.
Un personnage très gai, hyper grand, avec une petite tête qui va sonner une cloche.
S'enfermer dans soi-même, c'est non seulement se mettre dans une forme de non-relation au temps, puisqu'on se fige dans un temps passé, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de relation au temps. Vous n'allez pas me sortir du fait que c'est quand même quelque chose de très philosophique ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a une non-relation au temps, puisqu'on est figé dans le passé, il y a une non-relation à soi, parce qu'on est figé dans son costume, et il y a une non-relation à l'autre, parce qu'à aucun moment, il y a d'ouverture, ils sont vraiment derrière des grilles, ils sont derrière leur propre grille et derrière la grille de ce que parfois devient le monde aujourd'hui. Donc je trouve que c'est vraiment très contemporain ce qui nous appelle à réfléchir.
Oui, on a filmé une fois le carnaval d'Alost, mais plutôt comme expérience pour nous-mêmes, pour voir jusqu'où on pouvait aller avant de déprimer, le froid, l'ivresse, malgré la joie, il y a quand même une force de gravité très fort, plus fort, très fort. Oui, tout va vers le bas à la fin.
Il cherche le double. Et le double, c'est son personnage de bas-fond.
Est-ce que l'autodérision n'est pas le meilleur moyen de nous sortir de nos propres peurs et de pouvoir enfin rigoler de nous-mêmes? Donc il y a quelque chose qui touche vraiment aussi à ça, dans leur manière de présenter les choses, dans leur manière de créer les choses.
On m'a dit qu'il y a, dans la poésie des futuristes, il y a la figure poétique qui s'appelle la mossa del cavallo, c'est-à-dire les mouvements d'un cheval sur l'échiquier. Cette figure poétique consiste à choisir la direction et après tourner. Tout à fait, tout d'un coup, tourner.
Si c'est un musée folklorique, ce n'est pas un musée du folklore. Donc, on n'est pas là pour venir à la rencontre d'un folklore. On est là pour venir à la rencontre d'un musée folklorique. Donc, l'installation se moque déjà de nous-mêmes et notre relation aux autres.
Je me souviens que j'étais sur mes genoux quand j'avais 8 ans devant une cortège près du cathédrale d'Anvers.
Le costume définit vraiment l'identité de chaque personnage et une personne qui va commencer à être créée, et c'est aussi par les attributs qu'on lui trouve qu'elle va accéder à son identité, j'ai l'impression.
Qu'on est croyant ou pas, on s'échappe pas à la religion.
Les personnages sont d'abord construits par le vivant et non pas prédéterminés par leur fiche descriptive où il faudrait absolument qu'elle rentre dans une case, mais plutôt quelque chose d'assez vivant où finalement ce détail-là va arriver et va peut-être modifier un peu la personnalité ou l'histoire de chaque sculpture, de chaque personnalité.
Ça, c'est les habits d'une femme allemande très nostalgique, avec beaucoup de Sehnsucht. Elle va faire opérer un rouet.
Biennale de Venise 2019, qui se tiendra du 11 mai au 24 novembre. Pavillon de la Belgique. Projet Mondocane. Par Jos de Gruyter et Harald Peijs.
Ça, c'est les habits d'une femme qui fait de la poterie, avec la tête de Ilse Koch, qui était gardienne à Auschwitz.
Avec Alda Creoli, Anne-Claire Schmitz, Margot Schwartz, Jos de Gruyter, Harald Peijs. Ainsi que la voix de Tadeusz Kantor. Enregistrée à Cracovie durant l'année 1988.
Ça, c'est un homme très gai qui fait des pizzas.
Mondo Cane, par Thierry Genico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Ça, c'est une femme qui est entourée avec des rats. Ça va être un peintre très pauvre qui va faire une peinture d'un living statue. On est allé dans un village qui s'appelle Marchand Famine, où il y a chaque année, je pense chaque année, en tout cas cet été, il y avait le plus grand festival des statues vivantes. Aussi un monde très parallèle, avec beaucoup de Russes et de Polonais qui font des choses assez psychotiques. Ça, c'est les habits d'un Hollandais qui n'a pas de bouche, ni des yeux, ni des oreilles, qui va tourner à une vitesse très élevée sur son axe. Et ça, c'est le manteau d'un voyageur qui attend un train, un voyageur hyper ennuyeux.
Très bien, mais suite...
Oui.
Au prochain numéro, nous sommes le 5 février 2019 et c'est dans les établissements d'en face que nous avons fait notre rencontre au sous-sol.
Oui, exactement.
Et rappelez-moi votre nom.
Moi, c'est Harald Peijs. Jos de Gruyter.
Je serai à Venise à l'ouverture, oui. Avec plaisir. Thank you.